vivant mis en banque. Le terme biobanque est concurrencé par... je suis désolée, je n'ai pas de PowerPoint, hein, donc il va falloir m'écouter pendant 20 minutes. Donc le terme biobanque est concurrencé par d'autres plus étroits ou plus bureaucratiques, par exemple tumorothèque ou centre de ressources biologiques ou encore collection d'échantillons biologiques, cette dernière expression étant celle du Code de la santé publique français. Toutefois, le terme biobanque est aujourd'hui très couramment utilisé pour désigner un ensemble formé par une pratique, le biobanking, hein, pour utiliser l'anglais qui est très, très dominant dans ce domaine, des institutions, telle ou telle biobanque, je prends l'exemple de UK Biobank, la banque nationale du Royaume-Uni, et également un métier, le métier de biobanqueur ou gestionnaire de biobanque. Alors, en quoi consiste cet ensemble fondé donc essentiellement sur une pratique? La pratique consiste à constituer des collections d'échantillons biologiques, par exemple du sang, des cellules, des tissus, des urines, de l'ADN, associé à des données. Donc c'est ça qui est vraiment très important, c'est l'association d'échantillons à des données cliniques qui concernent des malades et leurs familles, des données généalogiques, des données historiques, des données sur le mode de vie, etc. etc. Dans quel but ? Le but, c'est de mettre ces collections à disposition des chercheurs afin de faire progresser les connaissances médicales dans tel ou tel domaine et du même coup, espère-t-on, améliorer la santé. On peut donc dire que la vie, c'est à la fois l'objet et le but des biobanques. L'objet, ce sont des échantillons extraits du corps humain, le plus souvent vivants, j'y reviendrai, collectés et mis en dépôt dans une institution. Je rappelle ici que « to bank », c'est justement mettre en dépôt. Le but, c'est la préservation de la vie humaine, si possible, en bonne santé. On peut également parler de biobanque dans le domaine végétal ou animal, mais je n'évoquerai pas cette question moi-même, d'autant que la personne qui va me succéder va parler de l'échantillonnage de la biodiversité marine. Alors, pour preuve du succès du terme biobanque, je citerai un article déjà un peu ancien du Times Magazine de 2009 qui classait les biobanques ou le biobanking parmi les 10 meilleures idées de l'année. Ou encore le réseau français Biobanque au pluriel, qui a été créé en 2011, qui est financé hein, par les pouvoirs publics et qui rassemble à ce jour une petite centaine d'organismes français de biobanque. La pratique est donc en pleine expansion en France comme ailleurs, sous différentes formes, des banques publiques, des banques privées, des banques minuscules de grosses banques nationales, des banques dans un réseau ou au contraire non intégrées dans un réseau, des banques consacrées à une pathologie en particulier ou au contraire des banques généralistes. Mais le colloque interdisciplinaire et à l'objet d'emblée très conceptuel qui nous rassemble aujourd'hui invite à délaisser la pratique, ce n'est pas ce dont je vais parler maintenant, pour s'attacher à l'idée de biobanque, ou plus précisément à ce que la mise en banque du vivant humain produit sur celui-ci, et plus précisément encore, l'interdisciplinarité supposant quand même l'existence de disciplines et la mienne étant le droit, à la façon donc dont la rencontre du droit et des biobanques révèle certaines transformations du vivant et en produit. Donc, mini parenthèse hein, sur mon statut de juriste, donc j'ai vraiment l'impression d'être l'intruse aujourd'hui, mais c'est très bien. Je voulais juste dire que je vais certainement employer des termes dans un sens qui en gênera... qui gênera nombre d'entre vous, mais comme j'ai vu que de toute façon à peu près aucun mot ne suscite l'unanimité, ça va, finalement depuis ce matin je me sens un tout petit peu plus à l'aise. Alors j'examinerai dans un premier temps la façon dont le droit s'y prend pour acclimater à ces concepts et catégories cet objet qui est très particulier, qui est une biobanque. Puis je me demanderais si les biobanques, malgré leur nom, contiennent vraiment du vivant. Et enfin, je mettrai en évidence quelques aspects de l'irréductible spécificité pour le droit de l'objet des biobanques. Tout d'abord donc, le droit et les biobanques, de l'ignorance à l'acclimatation. En guise de préliminaire, il ne faut pas céder à la manie, me semble-t-il, de voir de l'inédit partout. Et la pratique consistant pour un médecin ou un amateur de curiosité à collectionner des éléments du corps humain, des fœtus difformes par exemple, est très ancienne. Mais justement, elle se développait dans l'obscurité des sous-sols des facultés de médecine ou des cabinets de curiosité. Et le droit n'avait rien à y redire, ni même à en dire quoi que ce soit, à vrai dire, et ce pour deux raisons opposées. D'abord, parce qu'on ne pouvait rien en tirer à part de la connaissance ou de l'agrément. Ensuite, parce que la société était moins chatouilleuse qu'aujourd'hui sur les revendications que les individus peuvent avoir sur des éléments de leur corps. Tout change dans la seconde moitié du XXe siècle avec la possibilité de conserver hors corps des substances corporelles, des organes, du sang, des gamètes, avec la découverte de la structure de l'ADN puis du génie génétique, avec l'essor absolument considérable de la recherche biomédicale, avec la possibilité de produire la vie dans des éprouvettes, etc. Alors le droit se trouve face à des intérêts nouveaux qui peuvent même conduire à des conflits. N'oublions pas qu'en France, la première affaire relative à ce que l'on n'appelait pas encore la bioéthique, en France, a porté sur la revendication d'une insémination post-mortem. Une veuve était-elle en droit de récupérer après la mort de son époux auprès d'une banque de sperme cette semence afin d'avoir un enfant de son ex-époux? Seront ensuite, dans les années 80, vulgarisés les termes de bioéthique, l'expression droit de la bioéthique, le terme biodroit, certes très flou, mais qui signale, me semble-t-il, le très fort intérêt suscité pour le droit, non par la vie en général, mais par la production artificielle et hors corps du vivant. Donc je reprends cette distinction vie-vivant à ma sauce de juriste. Si je me fonde sur la définition courante de la vie donnée par le petit Robert, que personne n'a rappelé ce matin, la propriété essentielle des êtres organisés qui évoluent de la naissance à la mort en remplissant des fonctions essentielles. Qui leur sont communes. Si donc je prends cette définition, je peux faire l'hypothèse que la vie en elle-même n'est pas une catégorie juridique, mais que le droit s'est récemment emparé de la notion de vivant, par opposition, je fais simple ici, à l'inanimé ou à l'inorganique, qui, sans être véritablement une catégorie du droit, comme la personne ou la propriété ou le contrat ou la responsabilité, en est devenu un objet. Donc je reprends brièvement ces deux points. La vie biologique n'est, me semble-t-il, pas une catégorie du droit. Alors certes, le droit pénal sanctionne les atteintes volontaires ou involontaires à la vie. Cela va de soi. Un homicide est, selon le code pénal, le fait de donner volontairement la mort à autrui. Certes, la plupart des constitutions consacrent le droit à la vie. Bon. Mais la valeur protégée n'est pas que la vie au sens biologique du terme, comme en témoigne pour le droit pénal des débats subtils et très juridico-juridiques sur le point de savoir si quand on tire sur un cadavre sans savoir si la personne est morte, on commet un homicide ou pas. D'accord ? Ce genre de débat qu'affectionnent les juristes. Certes, le droit civil des personnes fonctionne sur des marqueurs forts, à savoir la naissance et la mort, marqueurs qui sont à la fois biologiques et sociaux, et qui aujourd'hui suscitent d'infinies discussions sur leur détermination. Quand naît-on vraiment? Quand meurt-on vraiment? Y compris en droit. Et je renvoie ici aux interventions de demain en fin de matinée. Mais le droit n'en donne pas de définition autonome. Il ne donne pas de définition autonome de la mort, il ne donne pas de définition autonome de la naissance. Il tranche entre celles qui proviennent des savoirs médicaux et biologiques, qui sont toujours mouvants, comme on l'a bien vu ce matin. La vie ne commence à véritablement intéresser le droit que lorsque le vivant devient objectivable. Extraction et conservation hors corps de matière corporelle vivante, identification de la structure commune à tout le vivant, du fameux code génétique universel, possibilité de le manipuler via le génie génétique, etc. Alors, si on se met d'accord, je vous demande de me suivre un instant, sur le fait que le droit se structure comme un mode d'action entre ce qu'on appelle en droit des sujets de droit, des personnes juridiques, vous, moi, personne physique, le CNRS, personne morale. Donc, une structure entre des sujets de droit entre eux ou des sujets de droit et des objets de droit. Donc, si on se met d'accord là-dessus, donc sur cette fameuse summa divisio entre les choses et les personnes hein, qui structurent le droit, mais le droit connaît aussi des hybrides et des chimères, je vous rassure. Alors, donc, les transformations très considérables de nos connaissances et de nos possibilités d'action sur le vivant ces 50 dernières années ont bien abouti à la création d'un nouvel objet pour l'empire du droit, à savoir le matériel vivant, et c'est pour ça que je dis vivant, le matériel vivant qui peut être transformé, cédé, échangé, vendu, détruit, ce qui suscite évidemment des convoitises, des controverses et des conflits de toutes sortes. Dès lors, le droit n'a, me semble-t-il, aucun mal à intégrer ce vivant qui se fond dans les autres objets du droit, comme une maison, un animal, une action en bourse, etc. C'est ainsi parce que le vivant est matérialisable, objectivable, standardisable aussi, c'est extrêmement important hein, dans la perspective des biobanques, utilisable, exploitable, que les biobanques sont quasiment devenues des objets de droit comme d'autres, donnant lieu à divers contrats, hein, les fameux accords de transfert de matériel, suscitant des questions de propriété, qui est propriétaire des échantillons, qui est propriétaire des données, qui est propriétaire de l'institution, des questions de responsabilité, que se passe-t-il si la biobanque livre à des chercheurs une collection de mauvaise qualité, que se passe-t-il si l'ADN mute, etc., etc. Mais donc, que le vivant humain, végétal ou animal, du reste, notamment quand il est mis en banque, soit devenu un objet ingéré par la machine du droit, est une chose. Que les biobanques contiennent véritablement du vivant en est une autre, et c'est ce que je vais examiner brièvement maintenant. Le contenu des biobanques, du vivant à ce que j'appelle l'inerte informationnelle. Je ne sais pas si les scientifiques ici approuveront cette expression. En premier lieu, historiquement, les collections d'échantillons biologiques contenaient plutôt des éléments morts, comme en témoigne l'exemple que j'ai donné au début de mon exposé, à savoir les fœtus monstrueux conservés dans du formol. Encore maintenant, les cérébrothèques, utilisées pour les recherches sur les maladies neurologiques, contiennent des morceaux de cerveau qui, par hypothèse, ont été prélevés sur des cadavres. En second lieu, s'agissant des collections les plus nombreuses, celles qui sont constituées à partir d'éléments prélevés sur des personnes vivantes, leur qualification de vivant prête à discussion au moins pour deux raisons. D'abord, la conservation possiblement indéfinie, dans un temps comme suspendu, de certains éléments et produits du corps humain, voire du corps humain entier relié à une machine, je pense ici aux personnes en état végétatif chronique, leur ôte le caractère évolutif de la vie. Je songe ici aux gamètes, aux embryons in vitro ou, comme je l'ai dit, aux personnes en état végétatif chronique. Ensuite, s'agissant plus spécifiquement des banques d'ADN, le questionnement devient encore plus aigu. D'un côté, par sa capacité fondamentale à se répliquer à l'identique, l'ADN est bien vivant. De même, puisqu'il est la molécule qui structure le vivant, il devrait logiquement en emprunter les caractères. Mais d'un autre côté, on sait bien que cette qualification est sujette à controverse d'un point de vue tant biologique que juridique. D'un point de vue biologique, le gène, qui est une structure chimique, n'est pas exactement vivant. C'est la même discussion que sur les virus. Et l'ADN, susceptible d'être conservé indéfiniment à des températures glaciales, semble plus inerte que vivant. D'un point de vue juridique, cette fois, il faut rappeler qu'une biobanque, je vous l'ai dit au début, c'est un agrégat d'échantillons matériels et de données immatérielles. Donc, de même que l'ADN a une double structure, on l'a suffisamment dit ce matin, matérielle et informationnelle, même si les deux dimensions s'imbriquent, on peut quand même s'interroger, très fortement à mon avis, sur le point de savoir si l'une ne prévaut pas sur l'autre et si l'ADN ne devient pas au fond l'accessoire de la donnée, alors même qu'il en est l'indispensable source. Donc c'est une espèce de renversement assez étonnant. Et cette hypothèse s'affermit au fur et à mesure qu'avance le séquençage du génome, et que se développent des banques uniquement de séquences. On a maintenant des banques qui ne sont plus des banques ADN et données, mais des banques de séquences. Je pense notamment à la Banque nationale Gene Bank aux États-Unis. C'est peut-être d'autant plus vrai que, puisque l'ADN présente justement cette capacité à se répliquer, une toute petite partie d'ADN suffit à obtenir de multiples lignées cellulaires. Et tout se passe alors comme si le caractère réplicable vivant de l'ADN était le facteur même qui conduit possiblement au caractère inerte, strictement informationnel, des biobanques, qui n'auraient alors plus de biobanque que le nom. Toutefois, derrière l'objet technique se profile toujours un possible retour de la matière vivante. Dernier point donc, l'éternel retour du vivant. Alors, ce retour ou cette présence irréductible se manifeste de trois manières au moins. En premier lieu, le droit de la bioéthique, la tout sensu, est traversé par une tension fondamentale. S'il a rendu licite à une échelle inédite l'utilisation des éléments et produits du corps humain, il a placé au frontispice de l'ordre juridique la personne humaine, comme l'énonce l'article 16 du Code civil. Une telle tension est perceptible dans la réglementation juridique des biobanques. D'abord, point de collection sans collecte ou prélèvement dans le jargon. Prélèvement donc sur le corps vivant d'une personne et donc point de collecte sans le consentement de celle-ci, laquelle dispose en principe d'un droit de regard, alors plus ou moins intense, sur l'utilisation ultérieure de son échantillon. Droit de regard, qui est une sorte de prolongement du consentement initial indispensable. Ensuite, les données associées aux échantillons, quoique anonymisées dans une biobanque, sont des données personnelles au sens juridique du terme, parce qu'elles sont indirectement identifiantes. Et en plus, ce sont des données personnelles de santé. Et donc, elles obéissent à un régime juridique spécifique qui est protecteur en raison de la source de la ressource, si je puis dire, à savoir la personne. Enfin, s'agissant des résultats de la recherche, là encore, la personne doit pouvoir en bénéficier, d'une façon ou d'une autre. Alors, certes, ce n'est pas ici le vivant biologique exactement qui imprime sa marque, mais le vivant représenté et incarné par une personne qui conserve certaines prérogatives sur ce qui a été tiré de sa matière biologique. En second lieu, l'ADN est transmissible de génération en génération, susceptible de muter, d'être manipulé. Et, on en a beaucoup parlé ce matin, en fin de matinée, il comprend, outre la zone codante, une zone dite non codante, dont on nous a bien expliqué qu'elle était très majoritaire. Et d'où l'on tire, c'est ce qui intéresse le juriste, les fameuses empreintes génétiques qui servent à identifier des personnes. Cette nature particulière de l'ADN commande de scruter le fonctionnement des banques qui en contiennent. On pense notamment à la question de l'accès par d'autres personnes que les chercheurs, par exemple la police, aux données génétiques contenues dans des banques de recherche. Cet accès doit-il être autorisé? dans quelles circonstances. Cela s'est produit par exemple en Suède après le tsunami en Thaïlande. Hein. On a autorisé la police à accéder aux banques de santé, banques génétiques de santé. Plus généralement, la frontière entre ADN codant et non codant, sur laquelle est structurée toute la réglementation française, tiendra-t-elle encore longtemps le coup? Je pensais bien que ce n'était pas le cas. Ce que j'ai écouté ce matin m'a encore conforté dans cette hypothèse. En dernier lieu, si l'on termine justement le propos en élargissant la perspective à d'autres banques que les biobanques stricto sensu, on retrouve avec force la question de l'ADN comme, j'avais mis comme forme vivante, enfin, de l'ADN. On veut ici parler de la question des scellés biologiques. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je vous rappelle donc que l'ADN, cette fois-ci non codant, donc celui qui permet d'obtenir des empreintes génétiques, est aujourd'hui massivement utilisé par la police et la justice. Que fait-on lorsque, sur une scène de crime, on prélève un échantillon d'ADN, mais que cet échantillon n'a pas conduit à un rapprochement avec une empreinte génétique déjà incluse dans notre fichier national qui s'appelle le FNAEG? Eh bien, on conserve sous scellé un morceau du support sur lequel l'ADN a été prélevé, au cas où. À Pontoise, dans le service de gendarmerie compétent en la matière, nous trouvons 180 000 scellés qui sont à l'heure actuelle conservés donc selon des méthodes de très haute technicité. Pourquoi? Et on les appelle les gendarmes essayent de faire advenir le concept de scellé biologique. Pourquoi? Parce qu'un jour peut-être, étant donné que la plus petite cellule peut être analysée, le scellé biologique pourra être sollicité pour parler. Aussi, et je conclurai là-dessus, n'est-ce pas le moindre des paradoxes des multiples rencontres du droit et de l'ADN que de voir des biobanques d'ADN codants, donc les biobanques destinées à la recherche médicale, se transformer progressivement en gigantesques musées numérisés, tandis que les scellés des sous-sols de la police, de la gendarmerie et de la justice, des choses inertes donc, commencent à s'animer à la manière des statues du célèbre jardin extraordinaire de Charles Trenet, qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on, mais qui, dès la nuit venue, s'en vont danser sur le gazon. Je vous remercie.
Merci pour cet exposé qui offre une... Merci pour cet exposé, ça offre vraiment une perspective extrêmement intéressante sur le vivant, mais sur aussi la façon dont ça s'intègre dans la société. Et toutes ces questions, en fait, on les avait abordées en 2009 dans un congrès international qu'on avait organisé à Bruxelles, des associations parastatales pour la protection des droits des personnes. Et donc, il y avait 27 pays européens qui étaient venus. Et ce qu'on avait constaté à l'époque, donc, on était déjà dans l'ère du séquençage des génomes, de la génomique personnelle, etc. Et effectivement, il y avait ce que disaient les juristes qui étaient là et les gens dont le but, la fonction est vraiment de protéger les données personnelles, c'est que tous ces États étaient complètement démunis pour s'attaquer à certains aspects dont certains vous avez mentionnés et d'autres que j'aimerais ajouter qui sont complètement nouveaux. Et un des aspects nouveaux, par exemple, c'est par rapport au droit de regard ou au consentement informé, c'est que quand on faisait des échantillons, quand on prenait des échantillons, qui ne concernait pas le génome. Le consentement informé, il était assez facile à définir parce qu'on le faisait pour une étude bien déterminée. Quand on collecte votre génome aujourd'hui, personne ne sait ce que dans 10 ans, on pourra décrypter des génomes parce que la majorité des gens n'en sait pas encore ce qu'ils font, mais dans 10 ans, on le saura. Il y a des études chaque année, des nouvelles études qui permettent de détecter des gènes qui sont associés à des risques de développer des maladies ou à des risques de ceci, cela. Et donc, aujourd'hui, personne ne sait à quoi il consent quand il donne ses échantillons. Et il y a un autre aspect qui est très important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec les découvertes non attendues. C'est-à-dire que si on collecte des échantillons pour une recherche, mais que dans 5 ans, avec les mêmes échantillons, comme on a le génome complet des gens, on pourra prédire des tas de choses sur leur risque particulier. Est-ce qu'il faut le leur annoncer ou pas? Est-ce qu'ils le désirent ou pas? À quel titre on le fera? Et un troisième aspect qui est alors vraiment, vraiment casse-tête sur le consentement, c'est que quand moi j'accepte de donner un échantillon de mon sang, je donne en même temps la moitié du génome de chacun de mes apparentés au premier degré, mes parents, mes frères et sœurs, mes enfants. Et ça, peut-être que dans le cadre juridique, je ne pense pas que vous ayez mentionné ça, mais je suis sûr que vous en êtes bien consciente. Comment vous traitez ça du point de vue juridique, que je suis en train de donner quelque chose qui, puisqu'il ne s'agit pas de mon échantillon, mais de quelque chose qui est dématérialisé dans le sens de l'information liée à mon génome, en le donnant, je donne la moitié de l'information de quelqu'un d'autre.
Alors, c'était à dessein que je n'étais pas entrée dans la technique hein, juridique, mais tout ce que vous évoquez, en tout cas les deux premiers points, sont bien connus des juristes. Donc, le premier point, c'est en effet à quoi je consens. Et les modes de consentement. Alors, il y a l'hétérogénéité, la plus grande domine. Hein. C'est-à-dire, il y a des pays, dont, par exemple, UK Biobank, pour prendre cet exemple, c'est vraiment une sorte de modèle hein, de banque nationale. C'est un consentement express, mais en blanc. C'est-à-dire, je dis, ils veulent vraiment que les personnes qui consentent à mettre leurs échantillons et à procurer leurs données aient consenti par écrit expressément, mais à partir de là, elles consentent à tout type de recherche plus tard. En France, on fonctionne sur un système de non-opposition. Bon, c'est-à-dire, pas pour le prélèvement initial, hein, bien sûr. Pour le prélèvement initial, c'est un consentement express. Mais ensuite, c'est un système de non-opposition, ce qui fait que théoriquement, en effet, on devrait pouvoir être resollicité pour chaque type de recherche. Bon, on voit bien que c'est très difficile à mettre en pratique, d'autant que se couple à cela la question de ce qu'on appelle l'exceptionnalisme génétique, qui est qu'en France, la recherche en génétique obéit à un traitement particulier, qui est que là, pour le coup, on revient à du consentement express. Bon. Donc ces questions, elles sont à la fois très abondamment traitées et en même temps encore assez, on va dire, mouvantes. La deuxième, sur les découvertes incidentes, elle est très, très importante aussi. Hein. Tous les gestionnaires de biobanques, tous les juristes qui réfléchissent à ces questions traitent de cette question. Est-ce qu'il vaut mieux... est-ce qu'on prévoit un retour d'informations individuel ou est-ce qu'au contraire on ne prévoit pas de retour individuel, et si on ne prévoit pas de retour individuel, est-ce qu'on prévoit un retour général? Bon, UK Biobank, c'est pas de retour individuel. Ils ont vraiment conçu la biobanque comme n'étant pas du tout un instrument directement de santé, mais juste un instrument de recherche. En France également, pas de retour individuel, mais alors là, il faut aller chercher la réglementation sur la recherche biomédicale, un retour général sur les résultats de la recherche. La personne peut avoir un retour général sur les résultats qui ont été obtenus. Alors, sur la question des apparentés, là, pour le coup, il n'y a rien dans la loi là-dessus. Enfin, il y a quelque chose dans la loi sur les apparentés, mais c'est sur l'information génétique familiale, c'est autre chose. C'est la question de la responsabilité qui est engagée lorsque j'ai fait l'objet d'un conseil en génétique et on m'a découvert une pathologie génétique. Est-ce que je dois le dire à mes apparentés? C'est encore une autre question. C'est très intéressant, votre remarque, parce que précisément, pour moi, c'est un point qui n'est pas encore trop travaillé aujourd'hui, pas assez. C'est la question du croisement entre l'ADN à des fins identificatoires et l'ADN à des fins de recherche, enfin, entre l'ADN non codant et codant. Alors, on vient justement dans le fameux FNAEG, le Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques, vient de s'ouvrir à une nouvelle possibilité en juin dernier, par un texte, un décret enfin, un peu obscur, pour la possibilité de rechercher les apparentés dans le FNAEG. Donc, on commence à réfléchir à ces questions, et vous avez tout à fait raison, cette dimension, on va dire, familiale du don d'éléments et produits du corps humain quand il s'agit d'une analyse ADN, elle n'est pas encore vraiment travaillée par les juristes.
Je pense que la question qui était abordée également, c'était le fait qu'il suffit que vous ayez deux ou trois apparentés qui aient publié ou laissé publier leurs données génétiques pour qu'on sache à peu près comment est composé votre génome. C'est-à-dire que sans que vous ayez donné aucune autorisation, on peut savoir si vous avez des chances ou pas de développer telle ou telle pathologie. Et ça, malgré la juridiction, aujourd'hui, on pourra passer outre. Et ça, c'est un vrai problème. Et comment on réglera ça? Ça, c'est un gros problème dans l'avenir. Je pense que... Encore une... Comment?
Les juristes pensent
faire des parce que les
compagnies le font déjà. Exactement. Oui, alors bon, ça, c'est une autre question.
Une dernière question, puis après, on est déjà un peu en retard.
J'ai l'impression que ce qui sous-tend du coup le problème que la parenté pose, c'est que comme on voit depuis ce matin, on n'arrive pas à bien définir le vivant, ni l'organisme, ni l'espèce, ni aucune brique élémentaire bien définie. Est-ce qu'il y a des mouvances dans le milieu du droit qui permettent de gérer ça, c'est-à-dire que l'unité rigide dans le problème de la parenté, si c'est le citoyen, c'est-à-dire que quand le citoyen donne son consentement, il donne un consentement unique pour lui-même, ce qui n'a pas de sens en regard de l'ADN, puisqu'en fait, lui n'est rien d'autre que la combinaison des génomes de ses parents. Est-ce qu'il y a des notions de citoyens qui vont un peu au-delà de cette unicité rigide ?
En droit ?
Oui, qui sont
alors,
plus non, souples que ça.
Alors, je vais dire, heureusement, non. Non, on a fini un peu avec les questions de tribus et tout ça. Non. Donc, le sujet de droit, heureusement, c'est l'individu. Les sociologues, anthropologues, etc., spécialistes des biobanques, ont, notamment outre-Manche, ont développé cette idée de citoyenneté sanitaire. C'est un peu ce qui sous-tend d'ailleurs tout le discours sur UK Biobank, c'est en donnant vos échantillons, en mettant à disposition vos données, vous faites acte de citoyen au sens de la citoyenneté sanitaire. Et de nos jours en France, avec l'expression fameuse de démocratie sanitaire, on n'est pas très très loin de cette idée. Non, le consentement, c'est un consentement individuel. Hein. Voilà, on va dire la cellule de base hein, du droit, c'est quand même l'individu. Après, il y a des dispositions. Encore une fois, quand je m'adresse à des non-juristes, c'est vrai que j'ai tendance à les mettre en garde. C'est pas parce que, voilà, effectivement, il y a des compagnies qui font un certain nombre de choses, mais c'est pas pour cela que le droit a tout accrédité. Hein, un certain nombre de choses qui sont interdites hein, en droit, mais je vais pas y revenir maintenant dans notre domaine. Le droit, la législation a intégré cette question des apparentés, je l'ai dit, à propos du FNAEG et puis à propos de la question de l'information génétique familiale, oui. Mais on n'a pas encore intégré le fait que quand on donnait en effet un échantillon, on donnait aussi par là même un échantillon qui est le même, en tout cas en partie, pour les apparentés. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, les données, elles sont anonymisées. Hein. Il faut aussi revenir. Voilà. Alors qu'après, il y a un accès possible, c'est une chose. Mais ces données, elles sont anonymisées. Ce n'est pas des données directement identifiantes.
Il y a quand même des gens qui sont nés sous X, qui ont retrouvé leur identité.
Bien sûr. Bien sûr, bien sûr.
Bien. Je suis désolé, on va arrêter. On va laisser donc la place à Sébastien Collin, qui va nous présenter donc un autre aspect.
Bon, bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Collin et je pense qu'il faut parler plus près du micro, non ? Un petit peu. Et je travaille à la station biologique d'Horoscope, donc dans une équipe qui s'attache à décrire la biodiversité des protistes, donc des eucaryotes unicellulaires, dans leur écosystème donc essentiellement marin. Donc une équipe qui est sous la direction de Colomban de Vargas. Alors dans cet exposé, je vais décrire succinctement les approches qu'on a pu développer pour investir un petit peu cette complexité biologique dans les océans à travers donc le projet Tara Océan et comment Tara Océan a pu servir de marchepied conceptuel pour un projet de science participative qui s'appelle Plankton Pellet. Donc j'essaierai d'élargir un petit peu l'éclairage de cette science à plus l'interaction entre la science et la société, plus que simplement le droit et le vivant. Alors, en guise de préambule, il me paraissait relevant de repartir au berceau un petit peu du vivant, à savoir donc cette magnifique planète qui, en fait, du fait de cette petite goutte d'eau liquide, a pu donc déclencher les processus donc d'organisation d'un matériel qu'on appelle vivant, et dont l'évolution a débuté il y a maintenant un peu plus de 3,5 milliards d'années. Alors évidemment, au cours de cette évolution, il y a eu une espèce d'interaction réciproque entre la partie inerte et vivante qui a conduit en fait toute la matière vivante à façonner la géochimie de la planète au cours de ces milliards d'années. De telle manière qu'à ce jour, nous avons vraiment une relation étroite entre la biodiversité qui est hébergée spécifiquement dans ces masses d'eau et donc les régulations géoclimatiques de l'ensemble du globe. Alors sur cette animation, vous pouvez voir les concentrations, enfin une vue satellitaire des concentrations chlorophylliennes dans les océans. Et ça vous permet d'appréhender un petit peu la complexité de la distribution spatiale de cette vie océanique, essentiellement microbienne, et également en fait son caractère très très dynamique. Alors si effectivement on zoome en fait de cette vue macroscopique jusqu'à une vue microscopique, on se rend compte que chaque litre d'eau héberge une quantité phénoménale d'organismes et que ça représente des flux d'énergie et de matière colossaux à l'échelle du globe. Alors c'est un écosystème qui est tout à fait particulier parce que sur les 9 ordres de taille dans lesquels on peut ranger les organismes vivants. Il faut savoir que dans les écosystèmes planctoniques, donc dans le plancton, on a tous les organismes qui dérivent avec des courants. On est capable, en fait, en collectant des organismes qui sont jusqu'à la dizaine de centimètres, donc quasiment les 9 ordres du spectre de taille. Ce qui n'est pas possible dans d'autres en fait, écosystèmes, typiquement un écosystème forestier, vous ne pourrez pas l'échantillonner de manière satisfaisante avec simplement quelques mètres cubes. Alors, en guise d'exemple, en fait, de l'accumulation des différentes échelles, en fait, qui symbolisent la puissance de cet écosystème, vous avez ici les processus de calcification qui sont à l'œuvre dans cette petite algue, donc un coccolithophore, qui produit des petites écailles en calcaire, donc une biochimie qui est encore pas très très bien connue. Et quoi qu'il en soit, de manière saisonnière, vous pouvez constater ici sur cette vue satellitaire que cette espèce de nuage de lait est en fait une prolifération de cette petite algue et ça représente évidemment des biomasses considérables. Et à la mort de ces organismes, au cours des temps géologiques, on a des accumulations qui sont visibles ici sur ces falaises calcaires du sud de l'Angleterre. Et donc on voit bien que ces petits processus qui sont à l'œuvre ici peuvent avoir vraiment des répercussions géochimiques considérables. Il est donc évidemment important, à l'heure de l'Anthropocène, de comprendre un petit peu comment cette biochimie quelle résilience elle peut avoir et comment elle peut impacter les sciences géoclimatiques à venir. Il y a donc un peu moins de 10 ans, Eric Arsenti, qui ici sur la photo, en fait, a réussi à nucléer autour de lui une petite équipe pluridisciplinaire autour d'un projet qui était encore un peu flou, qui consistait à aller explorer en fait toute cette biodiversité océanique à l'aide d'un voilier. Donc au cours des mois préliminaires, en fait, le projet s'est structuré et jusqu'à aboutir à un très très beau projet, vraiment où on a réussi à organiser sur un petit voilier une véritable plateforme d'échantillonnage réellement innovante et très, très interdisciplinaire, à tel point qu'au bout de 3 ans et demi, nous avions réussi à récolter plus de 35 000 échantillons divers qui se rapportaient à un peu plus de 200 localisations différentes, qui essayaient d'aller explorer 3 profondeurs d'eau différentes également, avec des groupes de biologiques extrêmement variés, allant des virus aux bactéries jusqu'aux eucaryotes. Et tout ça couplé évidemment avec les mesures physico-chimiques adaptées. Alors, bon, pour rebondir un petit peu sur la présentation précédente, il est clair que cet échantillonnage massif a posé des questions de droit assez pointues, notamment quand on s'approchait des eaux territoriales des pays concernés. Ce qui effectivement pose un vrai problème pour l'avancement des connaissances en sciences environnementales. Donc je vous montre simplement quelques photos pour vous illustrer un petit peu le travail à bord. Donc principalement l'utilisation de filets, très pratique pour concentrer la biomasse qui est en suspension dans les masses d'eau, mais également ici des systèmes de rosettes avec des bouteilles qui se ferment à différentes hauteurs pour emprisonner de manière un peu native l'eau qui se trouve à différentes hauteurs d'eau dans la colonne. Et puis ici, vous avez en arrière-plan sur la photo une toute petite boîte de quelques mètres carrés. Et c'est cette petite boîte ici qui a vu les 35 000 échantillons passer. Donc des échantillons, c'était vraiment un travail de shadow avec du pompage permanent pour faire des échantillons pour la génétique, mais également des échantillons pour l'observation morphologique et phénotypique des organismes présents. Donc ce qui nous intéresse donc, principalement au laboratoire, c'est de caractériser la biodiversité des eucaryotes qui se trouvent dans ces échantillons-là, donc essentiellement des eucaryotes unicellulaires. Et une des méthodes qui a été en fait déployé sur le projet, c'est le barcoding. mais un barcoding massif à l'échelle des nouvelles méthodes de séquençage. Pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Marc-André, c'est vrai qu'ici on sort un peu du concept d'espèce. On a des tout petits barcodes, donc qui nous donnent une représentation de la biodiversité génétique de l'échantillon, mais sans être forcément précis et avec une résolution variable en fonction des taxons que l'on observe. Donc un volume considérable de barcodes ont été générés, et le travail suivant était effectivement de classer et de quantifier un petit peu la diversité présente. Alors un des premiers résultats qui est ressorti de ces analyses, c'était notre capacité, ici vous avez une courbe de raréfaction, c'est-à-dire que ici vous avez l'ensemble des lectures de barcodes qui ont été accumulées, et ici la diversité de ces barcodes. Et ce qu'on voit, c'est qu'on est capable de saturer la lecture, c'est-à-dire qu'on voit quasiment tout le monde. Et donc ça, ce n'était pas acquis d'avance. Donc c'était, à l'heure actuelle, on est capable de dire qu'en prenant quelques litres d'eau, on va voir toute la diversité qui est présente, en tout cas à l'échelle de la résolution du barcode. Cette saturation, elle est locale, c'est-à-dire que dans un échantillon, on voit tout le monde, et elle est aussi globale à l'échelle de l'ensemble de l'échantillonnage. Le second résultat, c'est qu'en fait, cette diversité n'est pas équivalente en fonction des différentes fractions de taille qu'on avait pu séparer à bord du bateau. Et plus on va vers le petit, et plus on a une diversité qui semble importante. Donc à titre informatif, on utilisait en fait l'ADN ribosomique, donc la partie hypervariable V9 donc du 18S. Donc si on se place dans l'arbre du vivant eucaryote à un niveau assez élevé, ce qu'on est capable de dire, c'est qu'en tout cas dans tous les litres d'eau qu'on a pu échantillonner, on a à peu près les mêmes branches qui sont représentées, donc on voit à peu près tout le monde. Ceci dit, on n'a pas forcément la même représentation en termes de diversité fine. Alors une fois qu'on a tous ces barcodes, on peut effectivement rebondir sur les approches de réseau qu'a évoqué tout à l'heure Marc-André et essayer de voir effectivement comment se structure un petit peu cet écosystème. Le barcode, ça ne sert qu'à faire l'inventaire. Si on veut vraiment comprendre derrière comment en fait se structure l'écosystème, il faut pousser un petit peu les analyses. Et une des méthodes pour le faire, c'est effectivement de faire des analyses de réseau. Alors, ce qui est ressorti, c'est qu'effectivement, parmi toutes les connexions que l'on pouvait créer entre des paramètres physico-chimiques ou entre les différents barcodes présents dans les échantillons, les associations qui étaient prépondérantes, c'est effectivement des associations taxon à taxon. Et parmi ces interactions, effectivement, les parasites semblent en fait être des éléments extrêmement structurants de l'écosystème. Alors, malgré tout, toutes ces approches sont complètement aveugles. Si vous, en fait, appliquez les mêmes méthodes à Paris, vous allez avoir les barcodes de cafards, de mouches, de pigeons, de Penicillium camemberti et d'Homo sapiens. Mais si vous voulez comprendre qui structure vraiment l'écosystème, il faut effectivement les observer. Donc, c'était une des puissances de cette campagne d'échantillonnage, c'était d'avoir des échantillons permettant effectivement de visualiser les morphologies et les phénotypes que l'on avait dans les échantillons. Pour le cas précis de cette image, les réseaux ont permis de prédire une interaction entre une petite algue et un petit ver, un petit métazoaire. Et effectivement, en retournant dans l'échantillon présentant les plus fortes abondances des barcodes correspondant à ces deux espèces, on a pu retrouver cette interaction qui n'était pas encore connue. Toutefois, ces approches ne sont pas complètement parfaites parce qu'on a un certain nombre d'interactions qui sont déjà connues, qu'on n'a pas réussi à détecter par ces approches. Du coup, on s'est vraiment attaché au cours de ce projet à développer des méthodes d'observation, notamment certaines qui sont assez innovantes, comme celle qui est présentée ici, où on s'attache à décrire le plus finement possible et le plus génériquement possible les organismes présents dans les échantillons. Donc avec une combinaison de quelques marqueurs fluorescents, ici pour l'ADN en bleu, vous avez l'autofluorescence de la chlorophylle en rouge, ici les membranes eucaryotes et un marquage pour les surfaces de chacun des objets, on est capable de rendre visible en trois dimensions l'ensemble de la biodiversité eucaryote présente dans les échantillons. Alors pour confirmer un petit peu ce qui avait été vu dans les analyses de réseau, les interactions entre les différentes espèces sont effectivement un élément très structurant de ces systèmes-là. Et là, j'ai représenté sur cette diapositive en fait, quelques exemples des interactions qu'on peut avoir. Une qu'on a détectée à partir des échantillons il y a un peu plus d'un an maintenant. Donc c'est un petit cilié qui a la particularité en fait, de faire un petit squelette endosquelette en calcaire. Et donc, il a son micro-noyau, son macro-noyau et son micro-noyau. Et en fait, il est complètement farci de symbiodinium. Donc, c'est la petite algue qui est responsable des symbioses chez les coraux, notamment. Et donc, ça nous donne en fait un espèce de maillon manquant en fait, sur ces interactions dans le milieu pélagique. Donc, c'est un exemple parmi d'autres. Ici, vous avez ici des magnifiques radiolaires qui sont aussi. Celui-ci est capable d'héberger des pyphéocystites, un petit haptophyte. Ici, vous avez un radiolaire qui a complètement encagé ici des petits dinoflagellés. On parle là quasiment de farming du symbionte. Ici, vous avez des dinoflagellés qui hébergent des petites cyanobactéries, dont on ignore encore la fonction. On ne sait pas si l'intérêt, c'est d'avoir ici des produits photosynthétiques de la cyanobactérie ou alors de la fixation d'azote. Voilà, donc c'était un petit survol très rapide de la science qu'on fait au laboratoire sur ces échantillons-là. Et un point sur lequel je voulais insister pour clore un petit peu ce survol du projet Terra Océan, c'était le fait que tout s'est nucléé et s'est structuré autour d'un bateau et d'une fondation. Et cette fondation a quatre credos vraiment très importants qui me tiennent vraiment à cœur. C'est la science, l'environnement, l'éducation et les arts. Et toute la communauté scientifique qui a pu passer à bord et travailler sur ce projet-là a lentement été imprégnée par ces credos-là, à tel point que c'est devenu quasiment un ADN du consortium. C'est-à-dire qu'on fait tous vraiment beaucoup de médiation scientifique et on va vraiment beaucoup vers la société civile. Un point sur lequel je voulais insister aussi par rapport entre l'interaction société et science, c'est le fait que le projet n'aurait pas été possible sans un mécénat très fort, en l'occurrence ici Agnès B, qui mettait à disposition le bateau, et sans aussi des financements de la part des collectivités locales. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, Terra Océan, pour nous, ça a été un espèce de marchepied conceptuel pour un projet de plus grosse, pas de plus grosse envergure, mais qui va prolonger un petit peu ce qui a été fait dans Terra Océan. Le problème de Terra Océan, c'était, l'espèce de discrétion spatiale de l'échantillonnage. Or, je vous ai dit tout à l'heure, le système est extrêmement dynamique, extrêmement hétérogène d'un point de vue spatial, donc il faut augmenter énormément la fréquence d'échantillonnage. Donc, le seul moyen de faire ça dans des coûts raisonnables, c'est de faire appel à la participation de la société civile, et notamment en fait des navigateurs qui très souvent s'ennuient un petit peu au bord de leur bateau et sont très contents de pouvoir trouver une activité saine et faire un petit peu de science. Donc nous avons réussi à monopoliser trois boucles de navigation très fréquentées. Une première boucle entre l'Europe et les Antilles, une seconde boucle ici entre la Nouvelle-Zélande et quelques îles autour de la Nouvelle-Calédonie. Ici aussi donc quelques plaisanciers ici qui navigue autour de l'Antarctique, et une grosse boucle ici dans le Pacifique. Donc, il faut savoir qu'en permanence, on avait plusieurs milliers de navigateurs qui passent. Donc, potentiellement, on peut effectivement avoir une fréquence d'échantillonnage extrêmement pertinente. Donc, alors, qu'est-ce qu'on propose à nos navigants? Donc, on leur propose d'échantillonner du plancton pour nous, à moindre coût. Donc il y a toute une partie du projet qui est effectivement scientifique. Donc on reproduit un petit peu la méthodologie de barcoding qui a été mise en œuvre dans Terra Océan. Et puis donc il y a toute une côté vraiment échantillonnage qui est fait à bord des bateaux. Donc l'idée c'est vraiment de créer un échange très très gagnant-gagnant entre les citoyens qui acceptent de participer et les scientifiques. Donc sur la partie échantillonnage à proprement parler, plutôt que de vous décrire un peu schématiquement le projet, j'ai un tout petit film d'une minute. J'espère que j'aurai du son. Bon, alors je vais vous faire la bande son.
J'ai branché.
Donc je pense que ça vient de mon ordinateur. Ah, peut-être. Donc là, vous avez en fait trois enfants qui font partie en fait d'un équipage en fait qui a accepté de participer au projet. Donc ils mettent en œuvre complètement le kit d'échantillonnage par eux-mêmes. Donc ils comprennent le filet pour effectivement concentrer la biomasse. Et voilà leur récolte à l'issue du trait de filet, donc on va concentrer le plancton. Et ensuite, l'étape suivante, c'est de mettre en fait toute cette biodiversité sur des tout petits filtres, donc avec une petite tulipe comme ça en plastique, avec une pompe à main qui est fournie. On met toute la biodiversité sur un filtre, ensuite on va faire sécher les filtres. de manière à pouvoir les conserver dans les meilleures conditions. Alors, ce qu'on propose également, c'est effectivement c'est extrêmement frustrant d'échantillonner du plancton sans pouvoir l'observer. Donc, ce qu'on propose, c'est également des solutions d'observation avec des petits microscopes. Ça, je vais revenir par la suite, donc qui permettent aux enfants effectivement de s'extasier devant la beauté et la diversité de cet écosystème. Je reprends le cours de la présentation. Donc voilà ce qu'on leur fournit. Donc un kit d'échantillonnage et de quoi les concentrer. Hop. Alors maintenant passons à la partie scientifique de cette première année de récolte. Le projet est tout jeune, il a qu'une seule année. Donc nous avons réussi à récolter quasiment 200 échantillons à partir de 22 équipages. Et nous avons donc commencé à barcoder tous ces échantillons. Donc il se trouve qu'on évidemment en fait l'essentiel des barcodes présents ont déjà été observés dans Tara. Mais ce qui est vraiment très rassurant, c'est que la méthode marche. Avec un système très 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 basique d'échantillonnage, on n'a pas vraiment de contamination. Donc les fils sont renvoyés par la poste de l'autre bout du monde et ça marche très bien. Alors maintenant, on sommes à l'année 2 du projet. Il s'agit un peu de pérenniser et de structurer un petit peu ce projet de science participative. Donc le premier point, il s'agit de fidéliser un petit peu et de recruter plus d'échantillonneurs. Donc, pour ça, on ne peut pas simplement leur donner de quoi filtrer des galettes. Il faut vraiment renforcer le côté un peu communautaire et puis le côté observation, créer un petit peu d'émulation entre eux. Donc, ça va être l'objet en fait, des trois axes de développement de ce projet-là. Donc, le projet qui va en Cell for Science, qui vise à stabiliser les routes d'échantillonnage et donc de faire de l'écologie derrière. Un projet qui vise plus la partie visualisation des échantillons avec de l'imagerie à bord, à terre. Et puis un projet performance qui est un peu satellite qui vise à décrire un peu la partie atmosphérique des échantillons. Donc beaucoup de recherche et développement d'un point de vue matériel et puis une coordination via une association pour plus de souplesse budgétaire et administrative. Alors je vais insister maintenant sur quelques diapos sur la partie visuelle qui m'intéresse un peu plus dans ce projet-là. Clairement en fait l'une des ambitions qu'on a c'est de créer vraiment de susciter la curiosité et l'émotion que nous on peut rencontrer quand on regarde ces échantillons-là. Donc, pour ça, il s'agit de fournir des moyens d'observation aux citoyens qui participent. Et un des moyens, évidemment, compte tenu des coûts des microscopes conventionnels, on ne peut pas se le permettre, c'est de faire appel à des stratégies low cost. Donc, pour ça, on a commencé à collaborer avec Manu Prakash à Stanford, aux États-Unis, qui est un peu leader en la matière de microscopie low cost. Donc, peut-être certains de vous sont au courant, il a mis au point un espèce de microscope pliable à partir d'une feuille A4 plastifiée, donc dans lequel on ajoute un minimum d'électronique, c'est une LED avec une pile, une lentille sphérique, et on est capable déjà vraiment d'accéder aux petits. Donc c'est assez bluffant, ça coûte moins de 2 $, c'est pliable, c'est résistant, ça pèse rien. Et donc en première approche, c'est vraiment, vraiment génial. Et puis il y a d'autres projets un peu plus évolués, qui coûtent un petit peu plus cher, mais de l'ordre de la dizaine de dollars, qui permettent ensuite de faire de l'imagerie un peu plus qualitative. Mais là, on peut déjà en fait, mettre un smartphone, utiliser la caméra, enregistrer des images. Alors nous, au laboratoire, on a détourné un petit peu la partie électronique hardware du Foldscope avec un étudiant et de manière à pouvoir l'adapter un petit peu aux échantillons liquides que l'on rencontre. Et donc, dans une petite boîte ici qui est fermée, donc tout ça est découpé avec une découpeuse laser. C'est vraiment du matériel standard sur les Fab Labs. On peut en fait découper donc des plaques de médium de quelques millimètres et auto-assembler ce petit boîtier dans lequel on a une petite pompe peristaltique pour pomper l'échantillon qui va passer en fait devant la même type de lentille. Et si on met un smartphone sur le dessus, là, et si vous avez la lentille qui est là, on est capable déjà en fait, d'observer du petit et de faire des petites vidéos. Donc évidemment, c'est un prototype, c'est en cours d'amélioration. Voilà, juste pour finir là-dessus, on va décliner en fait, deux types de microscopes pour le plancton. Un kit vraiment senior, dont l'objectif c'est vraiment de faire des images de qualité, qui puisse être exploité d'un point de vue scientifique et un côté un peu junior, vraiment pour que les enfants puissent s'approprier ce type d'environnement. Donc évidemment, l'idée, c'est que si on reçoit les filtres avec l'ADN de plancton, on veut aussi recevoir les images. Et à l'heure actuelle, compte tenu des solutions qui sont disponibles, c'est vraiment, vraiment très facile à faire. Alors derrière, une fois qu'on a toutes ces images, il faut effectivement pouvoir les structurer, les partager, travailler avec. Et pour ça, on va se reposer sur un outil qui a été développé donc, pour Tara Océan, qui s'appelle EcoTaxa. Donc c'est une base de données en ligne dans laquelle on charge tous nos jeux de données d'images massives environnementales, avec tous les metadata d'échantillonnage disponibles. C'est très facile d'emploi. Nous avons tous les filtres qui permettent de naviguer et, dans l'échantillonnage. Et une des spécificités de cet outil-là, c'est d'avoir ici un arbre taxonomique qui permet d'aller sélectionner et classer en fait toutes ces images-là. Donc l'outil propose deux accès, un accès scientifique et un accès public. Donc je pense qu'on va vraiment dans un premier temps s'appuyer dessus pour partager les images du projet Plankton Planet. Donc un point en fait sur lequel on veut aussi insister, c'est la convergence entre les arts et les sciences. Donc en guise de préambule, je vous propose cette diapo là de partager les mois que j'ai pu avoir il y a quelques jours de ça, en fait, en visualisant ces peintures rupestres. En fait, je ne m'étais pas rendu compte à quel point en fait, ces observations sont extrêmement précises. Et notamment ici, ces mouvements aussi de tête sur un lion de la grotte Chauvet. Et ici, quelque chose qu'on retrouve ici sur un autre site au Portugal. Et en voyant ça, je me suis vraiment réalisé que c'était une forme de proto-science. On a vraiment ici une convergence du souci d'observation, de la précision, de la communication. Alors l'histoire ne dit pas si effectivement la publication sur des blocs de granit était plus dure que dans Nature maintenant, mais en tout cas, c'est assez intéressant comme... Et alors, si je fais un saut, temporel, un petit peu brutal, pour revenir à Eichel, c'est les premières observations vraiment des organismes microscopiques qui nous intéressent. En fait, c'est assez curieux de faire le rapprochement entre les deux types de tableaux de chasse, celui de Eichel et celui de ces Coréens qui pêchaient la baleine. Alors l'accès, l'étape suivante, au-delà des représentations en deux dimensions de Eichel, aussi précise soit et belle soit-elle, c'est le passage à la troisième dimension. Et là, en fait, de ce point de vue-là, le travail qui est vraiment emblématique, c'est celui du père Léopold Blachta et son fils, Rudolf, où ils ont vraiment eu le souci de créer des modèles extrêmement précis en trois dimensions, avec déjà des ambitions pédagogiques et académiques. Alors, un tout petit peu avant, on avait effectivement le travail aussi d'Orbini, qui sont au Villebo Museum à Paris, qui reprennent un peu le même principe, c'est-à-dire reproduire en trois dimensions des morphologies microbiennes. Mais compte tenu des méthodologies dont on dispose à l'heure actuelle au XXIe siècle, on peut légitimement avoir des ambitions un peu plus fortes et vraiment essayer de démocratiser cet environnement microbien auprès du grand public, de manière à créer une forme de choc émotionnel, vraiment de... En fait, pour moi qui passe mon temps à voir ces échantillons-là, j'aimerais vraiment, vraiment pouvoir le partager. Et donc, évidemment, on peut faire de l'imagerie en 3D, représenter différents compartiments cellulaires. Donc, c'est des très bons supports de médiation scientifique. Une fois qu'on a ces modèles-là, on peut aussi faire de l'impression 3D, évidemment. Mais aussi, on peut faire des hologrammes, on peut faire des tas de choses. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et ça reste très, très fidèle et scientifiquement. Et j'aimerais ici, à la fin donc, de cet exposé, mentionner aussi un projet qui est complètement indépendant de Plankton Planète, mais qui s'appelle Planktomania, où on exploite énormément les technologies 3D pour faire de la médiation scientifique auprès du grand public. Alors cette fois, c'est de la réinterprétation artistique des formes biologiques, mais malgré tout assez fidèles, qui nous permettent de développer des outils de réalité augmentée. Donc on fait apparaître les organismes en 3D sur les cartes, mais aussi de faire des représentations en réalité virtuelle de cet écosystème qui est extrêmement mouvant et complexe. Et ça rencontre vraiment un succès phénoménal. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de cette petite présentation? Trois messages. Donc le premier message, c'est que... Et là, je ne suis pas très d'accord avec un commentaire qu'a pu faire tout à l'heure Marc-André sur la prédominance des prokaryotes dans l'environnement. Les résultats préliminaires qu'on a, en fait, tendent à montrer le contraire. Je pense que la diversité fonctionnelle est plutôt en fait, chez les eucaryotes et en grande partie chez les eucaryotes unicellulaires. Ils sont vraiment des acteurs clés qui structurent un peu l'écosystème marin. Et les résultats préliminaires qu'on a sur des sédiments forestiers, par exemple, tendent à monter ou à accentuer ce type de résultats. On a ici un phénoménal réservoir de diversité, que ce soit sur les architectures cellulaires, qui sont vraiment, dans certains cas, très très différentes des schémas qu'on peut rencontrer dans les livres. Des cycles de vie, pour la plupart inconnus, extrêmement complexes, des fonctions, des comportements absolument phénoménales, une chimie aussi complètement innovante, et évidemment une écologie particulière. Alors, il y a réservoir et site de recherche fondamentale, mais évidemment, d'un point de vue bio-inspiration, il y a énormément de choses à faire. Enfin bref, c'est un véritable terrain de jeu qui s'offre à nous dans les années qui viennent, et à multi-échelle, que ce soit vraiment de la biochimie jusqu'à l'écosystème. Alors, du point de vue des chances participatives, ce qu'on a vraiment à cœur, c'est d'avoir des citoyens qui soient acteurs de cette science, avec un partenariat qui rentre en synergie entre les deux compartiments. C'est d'ouvrir la science un petit peu à la société civile, de manière à avoir des citoyens qui soient éveillés. Et donc, s'ils sont éveillés, ils sont aussi quelque part veilleurs du système. Et ça répond à une vraie demande sociétale, c'est-à-dire que quand on présente ce type de projet-là sur des événements grand public, on a un vrai retour, on a une vraie demande. Les gens veulent vraiment participer à ce genre de choses. Et il me semble en tout cas critique de pouvoir en fait faire diffuser tous ces savoirs scientifiques, de les décloisonner, d'autant plus dans un monde qui est sous vraiment une contrainte humaine forte et qui nécessite des prises de position politiques vraiment conséquentes dans les années qui viennent. Il faut naturellement impliquer les enfants, comme dans la vidéo qu'on vous a montrée tout à l'heure, et puis effectivement donner accès à l'observation. Parce que voir, ça reste toujours vraiment, vraiment croire. Et puis, le troisième point, en fait, sur lequel je voulais insister, c'était vraiment les aspects de médiation scientifique. Et je pense que là, en fait, plus qu'un droit, je pense qu'on a vraiment un devoir de partage de l'émerveillement qu'on peut rencontrer au quotidien sur les questions sur lesquelles on travaille. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a un message que j'aimerais vraiment faire passer, en tout cas, qu'on s'attache à faire passer dans nos opérations de médiation, c'est qu'il faut vraiment refuser ce diktat du biomédical qui consiste à ignorer vraiment quasiment littéralement toute cette vie unicellulaire, qui est pourtant extrêmement riche, et qu'on peut assimiler une forme de pasteurisation même. Il faut sortir aussi de cette dichotomie qui consiste à répartir le vivant entre plantes et animales, qui n'a vraiment aucune raison d'être, et qui d'ailleurs est assez fausse en fait, hein, qui mélange la taxonomie et le fonctionnel. Et puis le point sur lequel je voudrais terminer, c'est qu'en fait la vie planctonique est vraiment un support de médiation extrêmement complet, extrêmement riche, qui permet d'adresser énormément de questions de biologie auprès du grand public. Donc voilà, ce type de projet fait appel à énormément de personnes différentes avec des sources de financement extrêmement variées. Donc les noms sont là. Et comme je n'avais pas de place pour tous les logos, ils sont ici. Et je vous remercie de votre attention.
Merci pour ta présentation. Quelques questions, Patrick Forte.
Patrick Forter, biologiste. Est-ce que vous avez des interactions avec Micropial, le musée à Amsterdam, qui est, à ma connaissance, le seul musée de micro-organismes au monde, qui serait vraiment intéressé, je pense, par tout ce qui est présenté là? Et en plus, est-ce que ce ne serait pas une possibilité d'imaginer un musée comme ça en France, quoi, à Paris? Enfin, c'est extraordinaire comme musée. Ça pourrait être encore bien meilleur avec toutes les données. Je suis d'accord, bien qu'étant spécialiste des archées, je suis tout à fait d'accord sur l'importance de la diversité des eucaryotes unicellulaires.
Alors, on n'a pas de contact avec ce musée-là. Par contre, effectivement, je veux bien prendre les références du musée. Je sais qu'il y a... Les plus belles représentations qu'on a pu voir d'organismes microbiens, c'est dans un musée, il me semble, qui est en Allemagne, où là, en fait, les maquettes ont une qualité remarquable. On a beaucoup d'interactions, naturellement, à cause de la proximité géographique avec Océanopolis, mais également avec les gens du muséum. Donc d'ici, en fait, 2 ans, il y a une grosse exposition sur l'environnement marin au muséum, dans laquelle on va participer. Et donc, on prépare du contenu varié pour cette exposition en particulier. Mais l'idée, c'est effectivement de pouvoir s'appuyer sur ces structures-là pour soutenir cette médiation qui, quelque part, en fait, c'est pas vraiment notre travail, même si on aime le faire. Mais donc, il faut s'appuyer sur les professionnels.
Merci beaucoup. Oui, j'avais une question sur la participation de la société civile. J'ai eu l'occasion, il y a un peu moins de 10 ans, de participer à une expédition un peu du même type au Vanuatu, organisée par le muséum. Mais j'étais en observatrice. Hein. Et donc, c'était tout à fait fascinant pendant 3 semaines de voir les scientifiques travailler. Et j'avais pu observer notamment la présence d'amateurs. Qui est une autre forme de société civile, c'est-à-dire des gens qui ont un autre métier que scientifique et qui sont par ailleurs des collectionneurs. Alors, en l'espèce de la biodiversité marine, comme pour vous. Donc je me demandais comment vous articuliez cette nouvelle société civile, les enfants ou les gens qui sont vraiment complètement profanes, et puis les amateurs.
Donc très clairement, par exemple, sur Tara, il n'y avait que des scientifiques à intervenir. Donc, par contre, sur le projet Planctopathe, effectivement, on fait appel à des bénévoles. Donc, on n'a pas un nombre de kits d'échantillonnage démesuré à distribuer. Donc, on est obligé d'être sélectif. Et qui plus est, on entraîne les gens. Donc, ça nous permet un peu d'évaluer leur capacité, à, même si c'est assez basique, à faire le travail correctement. Ce qu'on a pu valider à travers les résultats, c'était l'absence de biais d'échantillonnage majeur. C'est-à-dire que même si l'échantillonnage n'est pas parfait, il n'impacte pas trop les résultats. Donc après, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. La limitation pour l'instant qu'on avait, c'était de la quantité de matériel d'échantillonnage qu'on pouvait distribuer. Et derrière, évidemment, il faut aussi le budget nécessaire pour séquencer tous ces échantillons.
Encore une question, puis on s'arrêtera pour la
prochaine. Thierry Momal, astrophysicien, donc rien à voir avec tout ça, mais curieux des méthodes utilisées, puisqu'en astronomie, on a aussi des méthodes d'observation, il y a aussi de la science participative. Mais dans ce cas-là, on est aussi, disons, confronté, où on se pose la question de savoir jusqu'où on va, c'est-à-dire à partir de quel seuil on estime qu'on a rempli les objectifs scientifiques, parce que faire des collectes, j'imagine, de plancton, etc., c'est bien joli, mais il y a un moment où vous avez des millions de séquences et tout, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on se dit, bon, bah, maintenant, on a ce qu'il faut, on estime qu'est-ce qu'il faut, parce qu'on peut toujours se dire, ah oui, mais c'est dans le milliardième plus 1 qu'on va avoir la découverte du siècle, mais quel est le dimensionnement, finalement, du projet en termes de retour scientifique, et à partir de quel moment peut-on estimer que les buts initiaux ont été remplis et que bon, on peut passer à autre chose, par exemple faire des collectes d'autres organismes ou des choses comme ça. Comment ça se passe et comment est alimentée la réflexion là-dessus?
Bon, d'abord, je pense qu'on est toujours dans une démarche assez exploratoire. Hein. C'est quand même un environnement qui est assez mal connu, donc il y a encore du travail. Ceci dit, c'est vrai que les résultats que je vous ai montrés tout à l'heure montrent qu'on arrive à une détection quasiment exhaustive de toute la biodiversité, au moins unicellulaire, qui est présente. Ceci dit, la plupart de ces barcodes correspondent à des entités qui sont encore inconnues ou pas décrites. Et à l'opposé, on a des descriptions morphologiques des espèces pour lesquelles on n'a pas de signature génétique. Donc il y a encore un gros travail de mise en vis-à-vis de ces deux jeux de données pour compléter ne serait-ce que l'inventaire du tableau. Et l'étape suivante, c'est effectivement de comprendre comment tout ce petit monde a vie. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est extrêmement dynamique, c'est extrêmement diversifié biologiquement, structuré spatialement. Donc, pour comprendre tout ça, de l'échelle moléculaire, biochimique, jusqu'à l'écosystème, il y a encore énormément de travail à faire. Donc, l'échantillonnage reste un point clé pour ça.
Merci. Donc, bien, on va faire une pause maintenant jusqu'à 16h05. Ça doit être bon. Donc, vous avez 20 minutes.